devant la Cour internationale de justice, affirmant que ce pays est complice d'un génocide en raison de son soutien présumé au FSR. Les Émirats arabes unis ont pour leur part rejeté les accusations du Soudan.
Il est l'heure maintenant d'accueillir mes invités en direct du studio de la VOA à New York. Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole de trois présidents de l'Assemblée générale des Nations unies via Skype de Paris. Roland Marshall du Centre de recherche internationale de Sciences Po, spécialiste des guerres civiles en Afrique. Et de Dakar, Ibrahima Kane, un des membres fondateurs de la RADO, rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, ex-directeur du bureau de plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine. Jean-Victor, qu'est-ce qui différencie cette guerre civile des précédentes au Soudan et pourquoi la communauté internationale est-elle accusée aujourd'hui d'être plus indifférente qu'avant ?
On s'était déjà plaint de constater qu'une guerre comme celle de la RDC aurait pu être oubliée, mais là, avec le Soudan, pays voisin, il ne faut absolument pas que ce taux de conflit majeur soit oublié. Alors il y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de similitudes. Tout comme la RDC, le Congo est frontalier de nombreux pays. Le Soudan s'étend de la mer Rouge à la République centrafricaine, de la Libye à l'Érythrée et à l'Éthiopie, et à une frontière avec l'Égypte. C'est donc un pays exceptionnellement important, un pays aux grandes potentialités, mais où les implications étrangères et les complications internes sont nombreuses. Tout d'abord, on peut dire qu'il y a une catastrophe humanitaire de très très grande ampleur, de nombreuses personnes déplacées, on parle de plus de 12-13 millions, mais aussi un financement du conflit qui est sur une base d'ingérence intérieure. Khartoum a accusé les Émirats de financer le mouvement de Hemeti. Quand j'ai couvert cette guerre, déjà la guerre civile au Soudan, au moment où John Garang et les Sud-Soudanais se battaient déjà, oui, il y a 40 ans, je me souviens, c'était l'une de mes premières missions sur le terrain pour la BBC, eh bien, il y avait déjà des milices qui étaient très, très, très fratricides, qui étaient très meurtrières, comme les Maharalines, et après on a eu les Janjaweed. Eh bien, Hemeti est précisément issu de cette tendance milicienne. Et je crois que l'implication des pays et la possible implication du Tchad, de la Centrafrique, ou des conséquences, ne peut pas arranger la question du Soudan. Le Soudan doit être un conflit qui doit être réglé, sinon les deux géants en Afrique, la RDC et le Soudan, vont apporter de graves complications.
Oui. Roland Marshall, avec plus de 150 000 morts et près de 13 millions de déplacés, nous répétons ces chiffres évidemment, le Soudan connaît la plus grave crise humanitaire au monde. Pourquoi ce drame est-il jugé largement ignoré par les grandes puissances et les médias occidentaux ?
D'une part parce qu'il se passe d'autres conflits qui sont extrêmement importants, qui sont des guerres stratégiques. Ce qui se passe évidemment en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, sont deux conflits qui vont très certainement jouer un rôle important pour restructurer l'ordre international. Le Soudan, hélas, comme peu avant la guerre au Tigray, sont des guerres qui n'auront pas d'impact internationaux important, même s'ils auront un impact régional très fort. Ça, je crois, la première raison. La deuxième raison, c'est quand même que au début du conflit, les acteurs internationaux ont pensé que cette guerre allait être, ils n'étaient pas les seuls, les universitaires aussi, les experts aussi, que cette guerre allait être très courte, que finalement on allait très rapidement avoir un vainqueur et qu'il faudrait parler avec le vainqueur. Or, ce qui s'est passé et n'est pas exactement cela, puisque la guerre commençait le 15 avril 2023, dure jusqu'à aujourd'hui à travers différentes péripéties militaires qui ont en commun d'être toutes extrêmement violentes et désastreuses d'un point de vue humanitaire.
Ibrahima Kane, que répondez-vous à ceux qui estiment que les organisations continentales, y compris l'Union africaine, ont failli dans la gestion de ce conflit ?
Que l'on pense que l'Union africaine ait failli, c'est une réalité parce que la guerre continue depuis 2 ans. Mais c'est les Soudanais eux-mêmes qui ne veulent pas que l'Union africaine travaille pour la recherche d'une solution. Quand le conflit a éclaté, ils ont préféré s'adresser à ce qu'ils appellent leurs frères arabes pour essayer de trouver une solution entre eux. Toutes les tentatives africaines d'amener les deux parties autour d'une table ont échoué. Et pourtant, chaque fois qu'ils sont convoqués en Arabie Saoudite ou que les Américains les appellent, ils sont décidés à y aller et ils vont et ils ne trouvent pas de solution. Donc, en grande partie, c'est la faute aux Soudanais eux-mêmes, mais c'est aussi l'échec de l'Union africaine parce que c'est une organisation qui parlait d'une solution africaine aux problèmes africains. Or, comme l'a dit tout à l'heure l'un des participants à cette discussion, si ces crises-là ne trouvent pas une solution, ça va déteindre sur pratiquement toute l'Afrique centrale. Et ça, ce sera un autre problème.
Jean-Victor Nkolo, l'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU refusent de reconnaître tout gouvernement parallèle. Mais cela suffira-t-il à empêcher une fragmentation, une partition du Soudan, pays déjà divisé sur le terrain, en quelques mots, si vous pouvez ?
Mais le Soudan est l'épitome même de la fragmentation ou des risques de fragmentation en Afrique. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années seulement est née de cette guerre civile au Soudan la République du Sud-Soudan. Et il faut craindre une fragmentation encore plus poussée. C'est donc pour cela que les pays de la région et l'IGAD, l'autorité sous-régionale, a eu une rencontre au niveau des chefs d'État et de gouvernement hier, donc le 12 mars, pour appeler les uns et les autres, non seulement à la conciliation au Sud-Soudan, parce que ça aussi c'est un facteur complicateur par rapport au Soudan, mais aussi je pense que la communauté internationale commence à s'intéresser aux causes profondes de cette crise. Et parmi ces causes, il y a malheureusement, comme en RDC, la question des ressources minérales et de l'importance de la situation stratégique du Soudan. Il ne faut pas oublier de rappeler que c'est au Soudan qu'est partie toute la question Al-Qaïda, parce que c'est là-bas que Oussama Ben Laden avait pris une première résidence. Donc le Soudan a toujours été d'une importance stratégique, historique, et maintenant c'est un problème majeur qui effectivement peut déteindre sur toute l'Afrique.
Roland Marshall, Jean-Victor l'évoquait tout à l'heure, plusieurs puissances, notamment les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la Russie et l'Iran sont accusés d'attiser le feu en armant les belligérants. Dans quelle mesure ces ingérences prolongent-elles la guerre et empêchent-elles toute issue politique ?
Très clairement, si vous voulez, on assiste à plusieurs conflits en même temps. C'est-à-dire qu'il y a ce conflit interne que vous avez résumé en introduction de cette émission. Mais il y a effectivement, dans le même temps, des rivalités régionales qui opposent des pays voisins ou des pays de la région, les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Iran. Il faut parler évidemment de la Russie, le Tchad, la Libye de Haftar au moins, et tous ces pays essayent de jouer leur propre carte pour gagner une certaine reconnaissance ou au niveau régional ou au niveau international. Donc la complexité de cette situation, c'est que c'est une guerre qui est à la fois profondément soudanaise sur la question du départ de l'armée du pouvoir, hein, que ne veulent pas la plupart des pays de la région, il faut le rappeler. Ils ne veulent pas de gouvernement civil, ils ne veulent pas un gouvernement démocratique. Et d'un autre côté aussi, c'est une façon pour les puissances émergentes de la grande région, Turquie, Arabie Saoudite, Émirats, Qatar et Égypte, etc., de régler... d'essayer de construire des rapports de force qui leur serviront pour d'autres négociations.
Ibrahim Akan, nous l'avons vu, le Soudan accuse aujourd'hui les Émirats Arabes Unis de complicité de génocide devant la Cour internationale de justice. Abu Dhabi a déjà répliqué en fustigeant un coup de communication cynique. La démarche de Khartoum a-t-elle une chance d'aboutir ou est-elle avant tout symbolique ?
Je pense que c'est symbolique parce que pour aller à la CIJ, ça demande beaucoup de ressources à la fois humaines et matérielles, mais ça suppose aussi qu'on ait les éléments qui permettent de confirmer ce qu'on avance. On est dans une situation de guerre, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile, aisé de le faire, mais je pense qu'en le faisant aussi, le gouvernement, en tout cas ceux qui prétendent être aujourd'hui la représentation officielle du Soudan, montrent que c'est eux qui parlent au nom du Soudan. C'est aussi une façon de clamer et d'affirmer sa légitimité au niveau international. Je pense que ce sont ces deux arguments qui, de mon point de vue, sont les plus importants dans cette affaire. Mais je dois également ajouter un élément, parce que si on ouvre cette boîte de Pandore, presque tous les voisins ont aussi contribué à cette crise-là, ont aussi les mains sales. On parle de Haftar, on parle peu de l'Éthiopie qui aussi joue un rôle important. Il y a l'Égypte, et puis il y a le Tchad. Le Tchad surtout, qui est devenu, par la force des choses, presque un pion des Émirats Arabes Unis dans la fourniture d'armes et autres à l'un des belligérants. Donc vous voyez que dans cette affaire, si on va devant la CIJ, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes d'État qui répondront de leurs actes.
Chers invités, chers amis fidèles de la VOA, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs à la suite du Washington Forum. Ce sera après cette courte pause. Merci. Washington Forum, édition du jeudi 13 mars 2025. Gros plan sur la guerre au Soudan. La capitale Khartoum, autrefois vibrante, est aujourd'hui le théâtre de destruction massive. Les infrastructures essentielles telles que les ponts, les hôpitaux et les écoles sont en ruine, exacerbant une crise humanitaire déjà catastrophique. Les civils, pris en étau entre les forces rivales, subissent quotidiennement les affres des bombardements, des massacres, des viols et des épidémies. D'emblée, quelques commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Charles Bazema de Ouagadougou: cette guerre soudanaise nous démontre d'abord l'incapacité de la communauté dite internationale et de l'Union africaine, mais la véritable responsable est la faiblesse de l'armée, incapable de surpasser ses égos et surtout son intérêt personnel pour la nation. Si la guerre persiste, c'est aussi en grande partie à cause de l'ingérence des puissances étrangères, car le désordre dans ce pays permet d'atteindre leur objectif qui est de profiter du pétrole et autres. Pendant ce temps, c'est la pauvre population qui paie les pots cassés. Archiduc Théodore de N'Djamena: les civils innocents meurent au vu et au su de la communauté internationale qui a abandonné la stratégie de sauver les humains au profit d'un deal avec les leaders meurtriers sans cœur. Et Alphonse Mouaki de Kinshasa: le financement international va éviter une catastrophe humanitaire qui sera causée par une famine généralisée. Sans plus tarder, nous retrouvons nos invités de notre studio à New York: Jean-Victor Nkolo, ancien porte-parole des missions onusiennes en Éthiopie et en Érythrée, deux pays voisins du Soudan. Depuis Paris, le sociologue Roland Marshall, auteur de nombreux ouvrages et articles sur les guerres civiles en Afrique, et de Dakar, Ibrahima Kan, un des membres fondateurs de la radio Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Jean-Victor, après l'échec des précédentes initiatives de paix qui aujourd'hui, au sein de la communauté internationale, a encore la capacité et la volonté d'imposer un cessez-le-feu crédible au Soudan?
Un cessez-le-feu va peut-être être issu du rapport de force sur le terrain. Il se trouve actuellement que les forces du général Al-Burhan sont en train de reprendre pied et en train d'avoir des victoires limitées peut-être, mais en tout cas à Khartoum et dans divers centres. Et que les forces du général Emeti sont en difficulté de plus en plus. Cependant, il faut, au-delà de la question militaire et au-delà d'un accord de paix, il faut craindre une complication sur le plan humain. Et peut-être même, il faut craindre un génocide. Il y a déjà eu cette accusation, comme l'a dit tout à l'heure mon frère à Dakar, contre les Émirats pour soutenir un génocide. Mais il faut se rappeler qu'au Soudan, généralement, les conflits et les crises comme celle-ci ont été sur la base raciale ou sur la base ethnique. Et que cette complication peut s'étendre à d'autres pays. Par exemple, au Tchad, le président actuel, sa maman est Goran, son feu papa, le président Déby, était Zagawa. Or, les Zagawa, dont la région permet l'armement des forces de Emeti à travers le territoire tchadien, ne sont pas tout à fait d'accord avec l'appui que le Tchad semble donner à l'une des parties en conflit. Donc cette complication-là peut s'étendre au Tchad, en Centrafrique, au Soudan du Sud voisin, et même en Éthiopie et en Érythrée. Il faut donc craindre là quelque chose de terrible qui peut s'appeler un génocide. Et il faut saluer ici le travail incroyable, le travail immense que fait M. Adama Dien, l'envoyé spécial de l'Union africaine, pour la prévention du génocide et des autres atrocités de masse. C'est avec ces actions combinées, mais d'abord et surtout avec la volonté de ceux qui sont en première ligne, notamment les deux généraux, mais aussi les pays voisins immédiats, notamment le Kenya, c'est avec la volonté de toutes ces personnalités qu'on va peut-être éviter une autre tragédie en Afrique.
Roland Marshall, certains experts estiment que les accords de paix signés ces dernières années étaient voués à l'échec parce qu'ils excluaient la société civile. Faut-il un nouveau modèle de médiation pour le Soudan ?
Écoutez, bon, tous les accords qui ont été signés sur le Darfour dans les années 2000 ont échoué. Jusqu'à celui conduit par Doha, par le Qatar, donc en 2011. Après, disons, l'idée d'associer la société civile, c'est une idée généreuse, à condition, et qui peut avoir un impact fort, à condition de savoir ce qu'est réellement la société civile. Est-ce que le gouvernement du général Burhan peut coopter sa propre société civile? Et ce qu'on voit dans ce qui se passe à l'heure actuelle avec le nouveau gouvernement guidé par Emeti, c'est aussi cette tentation, de rassembler sous une même fédération un certain nombre de groupes qui appartiendraient à la société civile. Donc je crois qu'il faut, encore une fois travailler à deux niveaux. Il y a un niveau proprement international et régional. Et c'est sans doute là où il y aura les premiers pas décisifs pour un cessez-le-feu et des négociations de paix. Et puis il y aura un deuxième niveau qui sera proprement soudanais et qui devra être compliqué. Il faut quand même se rappeler que dans l'histoire des accords de paix qui se sont déroulés au Soudan, vous avez eu des moments où on a eu des accords de paix, le dernier en date étant l'accord de Djouba avec les mouvements darfouriens, qui ont été des accords de paix extrêmement longs, très descriptifs, très ambitieux, avec absolument aucun financement. Donc c'est pas la peine de faire rêver les gens sur des solutions qui nécessitent une aide extérieure massive à un moment où, en plus, on décide de la réduire du côté de Washington, mais aussi, sans le dire aussi fortement, du côté européen, et que l'on sait que ni la Russie ni les Chinois n'ont la volonté, le désir et les moyens d'agir de la même façon. Donc il faut faire aussi preuve de réalisme. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il faut se rendre compte que la situation actuelle, elle est quand même beaucoup plus compliquée que ce qu'on a décrit jusqu'à présent. C'est pas simplement deux camps. Ce qu'on voit, c'est que effectivement, dans le camp de Emeti, et c'est ce qui nourrit toutes ces accusations de génocide, de violence de masse, il y a une désorganisation des forces avec des groupes locaux qui commettent des actes de violence de masse. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que l'armée soudanaise, depuis septembre dernier, en fait depuis l'été dernier, a regagné une bonne partie de tout le Soudan à l'est du Nil, fondamentalement grâce à des milices, c'est-à-dire que l'armée soudanaise, qui est à la base de la création des forces de soutien rapide, pour battre les forces de soutien rapide aujourd'hui, utilise cette même recette, créer des milices en utilisant les renseignements, les renseignements militaires ou les services de renseignement, le parti islamiste, de façon à pouvoir se battre contre son ennemi. Donc les problèmes sont simplement renvoyés à d'autres instances militaires, ces groupes miliciens qui sont aujourd'hui responsables d'abus des droits de l'homme dans l'est du Soudan, à Wad Medani et à Khartoum.
C'est comme un cercle vicieux.
La situation est beaucoup plus compliquée que simplement avoir deux acteurs qu'il faudrait remettre autour d'une table.
Ibrahim Akan, le continent africain a-t-il encore les moyens d'une réponse concertée face à ce chaos? L'Union africaine et les organisations sous-régionales peuvent-elles réellement peser sur l'avenir du Soudan? Surtout, voilà.
Une seule lumière, si je puis dire, dans cette situation difficile, c'est peut-être la nomination récente du Djiboutien comme président de la Commission de l'Union africaine. Vous savez que Djibouti fait partie de la Ligue des États arabes. Ça veut dire qu'en tant que représentant de l'Afrique, il pourra aussi utiliser la position de son pays pour peut-être ramener les États arabes à de meilleurs sentiments vis-à-vis du continent et travailler peut-être plus étroitement avec les pays arabes pour une recherche de solutions à cette crise-là. La deuxième chose, c'est qu'on peut également espérer qu'il y a eu, parce qu'il y a eu un changement de gouvernement au niveau des États-Unis, que les États-Unis prennent sérieusement cette question, puisque l'actuel occupant de la Maison-Blanche pense qu'il peut régler beaucoup de problèmes, que la question soudanaise soit aussi dans sa valise pour qu'il puisse vraiment peser de tout le poids américain pour que au moins les parties retournent à la table pour discuter de la recherche d'une solution. Parce que tant que l'on ne s'asserra pas autour d'une table, il n'y aura jamais de solution à cette crise-là.
Alors Ibrahima, vous me tendez la perche. Justement, Jean-Victor, l'administration américaine du président Donald Trump vient de réduire l'aide internationale. Quel impact cela aura-t-il sur le Soudan et comment compenser ce désengagement des États-Unis ?
Alors, c'est une réponse ambivalente que je vais donner. L'arrêt de l'aide américaine est peut-être une ouverture pour que les pays africains, y compris le Soudan, se prennent eux-mêmes en main. Mais cependant, à court terme, les conséquences pourraient être catastrophiques. Ce qui est vrai, c'est qu'on est en train d'entrevoir une implication de la Maison-Blanche dans la résolution de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Il faut, comme le présumait mon frère Ibrahim Khan à Dakar, il faut espérer que la Maison-Blanche s'implique aussi à la question soudanaise parce que la crise là-bas est véritablement grave il faut véritablement espérer que la saignée s'arrête parce que le Soudan, tout comme le Congo, on doit arriver à définir un paradigme que les Africains doivent respecter, selon lequel l'exploitation des richesses minérales ou des questions géopolitiques ne doivent pas faire souffrir les populations, parce que face à ça, il faut des conséquences juridiques et peut-être même des conséquences juridiques internationales. L'arrestation et la conduite à la haie de l'ancien président indonésien, donc pas un Africain, donne peut-être un espoir sur le retour de cette mainmise de la justice internationale sur les conflits, car ceux qui attisent le feu doivent, je l'espère, s'attendre à ce que la justice un jour s'abatte sur eux.
Et voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Ibrahim Akan, Roland Marshall et Jean-Victor Nkolo. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes nos radios et télépartenaires. Et bien évidemment, un grand merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Nouveau rendez-vous dès jeudi prochain. Jacques Aristide ici à Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Take care. Merci. We'll be right back.